sans attendre, je vous propose qu'on ouvre la séance. Madame la présidente de l'Université Paris-Diderot, Christine Cléricy.
Mesdames, messieurs, chers collègues, le racisme et la discrimination raciale à l'école et à l'université, qui sont le thème de vos 3 jours d'études au sein du colloque international et interdisciplinaire, sont évidemment des points importants. Et il me semblait que l'université était un lieu d'accueil tout à fait naturel de ce séminaire. En lisant le livret de votre colloque, dans la diversité des approches et des interventions, je dois avouer en fait que c'est une question pour laquelle les présidents et les présidentes d'université sont assez peu saisis. Généralement, il s'agit de faits tout à fait ponctuels, souvent très politisé ou médiatisé, et où il nous est demandé de prendre des positions d'un côté ou de l'autre en fonction des courants et des idées affichées. Il est à remarquer que dans le champ de la recherche qui vous occupe, il y a eu une demande en 2016 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de désigner un référent sur les questions de racisme et d'antisémitisme dans les universités. Alors, cette demande est intervenue, on se rappelle, après les évitements terroristes. Et probablement, cette demande du ministère, nous l'avons intégrée comme une demande en réponse à l'émotion suscitée par ces actes terroristes et dans les faits divers qui étaient rattachés ou non à la question terroriste. Mais c'est vrai que le lien était très fort. En fait, si on regarde 2 ans après la demande du ministère, on s'aperçoit qu'il y a un nombre très limité de référents au sein des universités. Il n'y a par ailleurs pas à proprement dit parler de réseau ou d'action engagée de façon concertée entre ces référents. Pour nous, c'est une question. Je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi finalement les universités n'entament pas en fait finalement cette démarche et pourquoi ce réseau qui existe hein, dans d'autres référents universitaires n'est pas mis en œuvre. Alors par exemple, si on regarde la commu Sorbonne Paris Cité, qui est donc la communauté d'université dans laquelle Paris Diderot est membre, sur 9 établissements de la commu, un seul établissement a désigné un référent, et il s'agit de Paris Diderot. Les 8 autres établissements n'en ont pas. Alors, nous avons réfléchi, parce qu'effectivement, il y a des demandes assez récurrentes d'avoir des référents au sein des universités, que ce soit un référent égalité, etc. Et donc, c'est un questionnement pour nous d'avoir trop de référents, quelque part, avec une question qui est une question que l'on a considérée comme une question d'abord d'égalité. Et finalement, on a rattaché ce référent raciste et antisémitiste spécifiquement à notre réseau égalité. Je voudrais peut-être, en cela, préciser en quoi Paris Diderot est très impliqué dans l'égalité, parce que ça nous semble être aussi une composante, en fait, de la discrimination. Le premier point, c'est que Paris Diderot, dès sa création, a souhaité être ouverte à l'ensemble des publics. Et en ce sens, nous avons développé en France un des meilleurs accès à l'université aux études supérieures pour les personnes en situation de handicap. Nous avons développé également une section d'étudiants empêchés qui existe quasiment depuis la création de l'université en 70. Et notre action est une action pour la diffusion du savoir et de la culture auprès de tous ceux et celles qui sont éloignés, et notamment celles et ceux qui sont en prison. Et nous faisons un enseignement en présentiel. Des enseignants de Paris Diderot vont enseigner en prison et ont même élaboré quelques événements qui sont effectivement très bien accueillis par les responsables. Le second engagement que nous avons concerne l'égalité femmes-hommes. Paris Diderot est une université pionnière sur la question de l'égalité femmes-hommes dans sa recherche, mais également dans la création d'un service administratif dédié, puisque nous avons un pôle égalité femmes-hommes qui met en œuvre des actions de sensibilisation à l'égalité auprès des étudiants et des personnels. Donc, ces exemples montrent combien Paris Diderot est attaché, en fait, à cette question de l'égalité. Et c'est pour ça que nous choisissons d'afficher institutionnellement non pas la question du racisme ou de la discrimination raciale, mais bien celle, en fait, de l'égalité. Une égalité de traitement, une égalité d'accès au sein de l'université, que l'on soit étudiant ou personnel. Cette égalité doit aussi s'exercer dans la diversité et dans la différence. Quelle que soit la diversité et la différence, ils sont évidemment le terreau de la richesse culturelle et intellectuelle d'une société et nécessaire au brassage des idées, des courants de pensée et de l'évolution au regard de la société. C'est en cela que j'encourage mes collègues et la communauté universitaire à explorer de nouvelles questions lors de colloques tels que le vôtre. Il est important que l'université permette en ces temps de rencontres propres à discuter de points de vue, d'analyses, d'expériences différentes. Et au-delà de ces temps de rencontres, bien sûr, maintenir l'échange permanent entre les intervenants, qui sont, j'ai vu, très nombreux, puisque c'est quand même quasiment 3 jours de colloque. Et je pense qu'il y a un point qui est aussi important, parce que c'est notre rôle d'universitaire, c'est de mesurer scientifiquement les questions qui se posent et de s'appuyer sur les faits. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un colloque sur la discrimination raciale à l'école et à l'université, mais nous avons une recherche forte dans ce domaine, et c'est important de l'appuyer parce que je pense que ça répond aux questionnements extérieurs dont qui m'ont été adressés, et je pense que la réponse par la recherche est une réponse qui, finalement, efface toute discussion possible. Donc je suis soucieuse que ça soit fait dans ce cadre. Voilà, je ne pourrais pas moi-même assister à l'ensemble du colloque car j'ai d'autres activités, mais je serais évidemment intéressée par lire les actes qui seront produits à l'issue de ce colloque. Et je vous souhaite évidemment un travail extrêmement fructueux pendant ces 3 jours. Merci beaucoup.
Madame Christine Lazerge, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui soutient cette manifestation. Merci.
Mesdames, Messieurs, chers amis, Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord remercier infiniment les organisateurs de ce colloque, et en particulier Monsieur Adjat, qui, avec détermination, a surmonté toutes les épreuves qu'il a rencontrées, les obstacles qu'il a pu rencontrer dans l'organisation de cette manifestation. Cette manifestation, lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme à l'école et à l'université, je souhaiterais la placer sous l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous honorons cette année, dont nous célébrons cette année les 70 ans. Nous ne célébrons pas d'ailleurs seulement les 70 ans de l'article 1er, mais les 70 ans de toute la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour cela, je vous relis l'article 1er de ce que nous appelons, nous, à la CNCDH, la DUDH. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Eh bien, vous observez que l'égalité en dignité, distinguée de l'égalité en droit, prouve que la dignité n'est pas un droit, mais elle est cette essence particulière de nous tous qui induit l'égalité en droit, et c'est cette égalité en dignité qui s'oppose radicalement à toute forme de discrimination et de racisme. D'ailleurs, l'article 2 de la DUDH développe. La dignité humaine, dit la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reprend l'esprit de la Déclaration universelle, dit « la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée, et c'est en raison de cette égale dignité qu'il y a ensuite une égalité dans la liste des droits fondamentaux qui sont énoncés, mais en même temps une difficile effectivité de ces droits fondamentaux. Je le redis, l'égale dignité ne permet ni la peine de mort, ni l'esclavage, ni la déchéance de nationalité, ni toute forme de racisme ou de discrimination. La CNCDH, qu'est-elle dans ce combat pour l'égalité en dignité? Elle est une vieille institution qui a été inventée par René Cassin au moment où ce dernier rédigeait avec d'autres la Déclaration universelle. C'est donc une institution qui a même précédé la signature de la Déclaration universelle. Nous avons fêté l'an dernier nos 70 ans, alors qu'on fête cette année les 70 ans de la Déclaration universelle. Et nous avons été inventés pour être en vigie, en alerte, sur le respect par la France de ses engagements internationaux. Donc nous sommes nés d'une exigence de respect, d'une exigence de contrôle, du respect par les États nouvelles membres de la nouvelle organisation des Nations Unies, et des États qui s'engageaient sur le fondement de la Déclaration universelle. La CNCDH est la première institution indépendante et pluraliste dans le monde, mais l'intuition de René Cassin a eu des effets très remarquables, puisqu'aujourd'hui, il y a environ 150 pays qui possèdent des institutions du type de la nôtre. Elles ne sont pas toutes aussi pluralistes et toutes aussi indépendantes. Nous avons la chance d'être accrédité A par les Nations Unies, donc une très bonne note pour les Nations Unies. Il se trouve que, devant être à la fois en contrôle des engagements de la France à l'international et en soutien et conseil du gouvernement au national par des avis sur saisine ou sur autosaisine, nous sommes perpétuellement confrontés à la question des discriminations. Et dans notre institution, il y a un pôle discrimination. D'ailleurs, un de ses membres actifs, représentant le MRAP, est ici au premier rang. Et le gouvernement, le Parlement plutôt, en 1990, par une loi de 90 sur la lutte contre les discriminations, a confié à la CNCDH le soin de remettre chaque année au Premier ministre un rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Nous préparons en ce moment le 29e rapport et au fil des ans, ce rapport s'est préparé de plus en plus de façon partenariale, largement avec l'université et la recherche, avec plusieurs laboratoires de recherche, largement avec le monde associatif, largement avec aussi le monde politique. Donc, et les ministères, le monde politique, dont donc les ministères. Aujourd'hui, je voudrais insister sur un des volets qui revient systématiquement dans notre rapport, qui est celui qui est l'objet de ce colloque, racisme, discrimination raciale, de l'école à l'université. Et souvent, je dis, parlant de la lutte contre le racisme, le plus important, c'est de former les enseignants et les enfants dès la petite maternelle. Et de le faire, y compris à l'université. Madame la présidente de l'Université Paris-Diderot, tout à l'heure, évoquait la question des référents en racisme. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien quoi leur confier et quelle vigilance ils doivent exercer. Moi-même, dans mon université, référent en racisme, on n'en a pas vraiment entendu parler. Pas vraiment. Mais le message fort que je voudrais faire passer ce matin, c'est que c'est une exigence pour nous tous, dès l'âge de 2 ans, 3 ans, et jusqu'à la fin de l'existence, que de participer à la déconstruction des préjugés. Et à cet égard, je vous donnerai un exemple, menant un certain nombre d'actions, d'une action qui me paraît très importante. Nous avons, il y a 3 ans, produit 6 petits films qui s'appellent « Graines de citoyens » et qui s'adressent à des tout-petits, qui s'adressent aux 3-6 ans ou 3-7 ans et qui ont pour seul objet de démontrer la richesse de la différence et, au fond, le bonheur de la différence dans une société où nous aurons la chance de ne pas être tous des clones. Il faut donc éduquer. Il faut donc éduquer, fournir un travail collectif afin de dissiper de façon définitive, nous n'y arriverons jamais, mais de façon aussi tangible que possible, le renseignement, le racisme, pardon. Et ceci a des retombées pour plusieurs ministères. Ministère de la culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour tous ces ministères, c'est le préjugé qui est à déconstruire. C'est le préjugé qui est à la source, qui est la racine du racisme. C'est le préjugé qui est à déconstruire dans un partenariat aussi fort que possible. Nous faisons des efforts à la CNCDH pour produire des ressources ou pour du moins soutenir ceux qui produisent des ressources pour lutter contre le racisme. Et nous pensons qu'il faudrait que les enseignants dans leur formation, tous les enseignants, soient plus informés des ressources qui existent pour savoir parler du racisme. Par exemple, si je pense aux enseignants de l'enseignement secondaire, il existe un portail qui s'appelle Valeurs de la République et qui est utilisé en général seulement par une partie des professeurs d'histoire ou d'éducation civique et pas du tout par l'ensemble des professeurs. Or, nous ne lutterons utilement contre les préjugés que si l'ensemble des personnes qui en sont convaincues se sentent responsables de ce combat. Alors, de l'école à l'université, nous sommes très attentifs aux projets de recherche. Nous nous réjouissons de ce que la DILCRA ait mis en place, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'homophobie, d'ailleurs, de ce que la DILCRA ait mis en place un conseil scientifique à laquelle la CNCDH participe. Et la DILCRA finance maintenant des projets de recherche. Elle finance des thèses. Elle finance des thèses, je le dis, dans tous les domaines qui, de près ou de loin, porte sur le sujet du colloque d'aujourd'hui. Elle en finance deux par an et pendant 3 ans, ce qui n'est pas négligeable. Nous savons, nous recensons les travaux de recherche qui se font dans telle ou telle université et nous observons que le champ des possibles est énorme en matière de recherche et doit continuer à se développer. La CNCDH souligne également dans ses recommandations l'importance de réaliser une cartographie des potentiels d'enseignement et de recherche sur les thématiques du racisme. Elle n'existe pas vraiment. J'ajoute quand je dis thématique du racisme, bien sûr, j'ajoute discrimination. Cela permettrait d'avoir plus de visibilité sur l'offre de formation et de la recherche. Il y a peut-être un travail de recherche en soi que d'établir cette cartographie. Alors pour le moment, j'ai beaucoup parlé de l'axe éducatif, je n'en ai pas dit grand-chose, mais je l'ai évoqué, comme axe fort pour lutter contre le racisme. Mais je voudrais aussi noter, ce sera le dernier point de mon ouverture, noter que l'école elle-même produit de la discrimination, que l'école elle-même, sur laquelle nous faisons reposer nos espoirs de lutte contre le racisme, est productrice de discrimination et que cette discrimination se lie même dans l'accès à l'école. Nous venons, la CNCDH, d'initier et puis de nous associer UNICEF France, Rome Europe, une cinquantaine d'associations pour publier une tribune que Libération a publiée il y a 8 jours, une tribune qui rappelle des chiffres assez impressionnants du nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés dans certaines parties de la République, souvent outre-mer. On rappelle qu'à l'heure actuelle où la majorité des enfants se familiarisent avec leur nouvelle école ou leur nouvelle classe, mais une minorité d'enfants et d'adolescents n'a pas la possibilité de faire sa rentrée comme tous les autres. D'ailleurs, 80%, je ne sais pas si vous le saviez, mais 80% des enfants habitant en bidonville ou en squat ne sont pas scolarisés. Et comme leurs bidonvilles sont démantelés plusieurs fois par an, vous comprenez qu'il y a évidemment difficulté à les scolariser. Quelquefois, ils ont la chance d'aller à l'école 1 mois par an ou quelquefois 3 mois par an, mais rarement une année pleine. Les discriminations autour de l'accès à l'éducation touche également l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne l'accès des personnes d'origine étrangère. Une vraie réflexion s'impose d'ailleurs aussi sur Parcoursup, qui ne respecte pas véritablement les desiderata d'avenir de nombreux étudiants. Je terminerai en insistant sur l'importance du dialogue entre acteurs à différents niveaux de la société et de la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité absolument capitale dans la lutte antiraciste. La pluralité des regards enrichira nos dynamiques actuelles et nous permettra d'avancer vers une école à tous les niveaux pour toutes et tous, préparant ses élèves et ses étudiants à la construction d'un monde toujours plus tolérant et qui se rapproche de ce si bel article premier. Tous les hommes, tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Je vous remercie.
Merci, Madame la Présidente de l'Université. Merci, Madame la Présidente de la CNCDH. Je suis heureux, au nom du comité d'organisation, d'ouvrir cet espace d'échange et de réflexion autour de ces questions racisme et discrimination raciale de l'école à l'université, questions politiquement si fondamentales pour notre société. Nous le savons, la contribution des sciences à la structuration et à la légitimation du racisme a été largement explorée, à la contribution historique des sciences à cette affaire-là. On se rappellera par exemple que le comte de Buffon, qui donne son nom à ce bel amphithéâtre, pour lui, la peau blanche était supposée être la couleur originelle de l'homme, et les autres couleurs de peau, le résultat, celui de ce qu'il appelait une dégénération. Alors bien sûr, l'époque a changé, bien sûr, les productions et les discours académiques ont globalement pris leur distance, bien évidemment, avec ces théories. Les chercheurs se sont souvent engagés contre le racisme, avec des contributions décisives en biologie et en sciences sociales, par exemple. Malgré cela, nous savons toutes et tous que la réalité du racisme et des discriminations est une des questions les plus actuelles. Et cette actualité nous oblige, notamment en sciences sociales, à documenter cette réalité partout où elle se loge. C'est à notre connaissance, équipe d'organisation, le premier colloque en France qui porte sur la question du racisme et des discriminations raciales à l'université et de l'école à l'université. Étrangement, on pourrait dire, des colloques antérieurs ont pu aborder le sujet sous l'angle de l'école à l'emploi, où souvent d'ailleurs l'école a représenté la portion congrue, comme si entre le système scolaire secondaire et le marché du travail, il n'y avait rien, en tout cas rien à dire en matière de discrimination et de racisme. Or, on le verra dans ce colloque, ont commencé à émerger depuis quelques temps, en France comme dans d'autres pays depuis souvent plus longtemps, des enquêtes qui attestent que l'espace académique, de même que l'espace scolaire, ne sont en rien préservés de ces phénomènes et, comme ça a été dit, participent de produire, coproduire, reproduire des logiques de racisme et de discrimination. Un enjeu fondamental, écrivait Amandine Gay dans sa préface à la traduction française de Bell Hooks, un enjeu fondamental des années à venir est la décolonisation des imaginaires et des espaces institutionnels français, écrivait-elle. Une table ronde, dès ce matin, sera consacrée à discuter des liens entre l'histoire coloniale et le présent, sur le fonctionnement, sur le lien entre la colonisation notamment et le fonctionnement contemporain du racisme. Y a-t-il continuité ou pas? Voilà, c'est une question qu'on travaillera notamment. Mais au-delà et plus largement, nous pensons, au sein du comité d'organisation, qu'une grande part des enjeux politiques, mais aussi scientifiques, est en effet de regarder du côté du fonctionnement des institutions. Ce travail critique et réflexif est d'autant plus aujourd'hui un défi majeur, qui se pose, d'un point de vue démocratique, et d'autant plus à nos institutions universitaires, scolaires et plus généralement éducatives pour faire avancer l'égalité, d'autant plus que ça a été rappelé, on attend de l'université, on attend de l'école qu'elle forme les futures générations. Les diverses sessions, conférences, tables rondes de ces presque 3 jours nous permettront de prendre la mesure de ces enjeux. Il s'agira d'explorer la réalité multiforme des processus par lesquels le racisme et les discriminations se produisent et se reproduisent au sein des systèmes scolaires et académiques. Il s'agira également de réfléchir à partir de recherches empiriques et à partir d'expériences pratiques, aux défis que cela pose pour la formation et pour la pédagogie, pour la gouvernance des établissements et des organisations, ainsi que du point de vue général, pour les politiques institutionnelles. C'est le rôle et c'est l'honneur de l'université de contribuer à défricher des questions nouvelles à travers la recherche scientifique et sa mise en discussion au public, Madame la Présidente l'a rappelé. Ce rôle est d'autant plus important que les questions sont difficiles. Il est certain que pour une institution publique, comme l'université, comme l'école, forte de ses valeurs d'égalité et d'ouverture sur le monde, accepter de poser et d'affronter la question de la discrimination raciale et du racisme, susceptible de la traverser ou qu'elle est susceptible d'organiser, de contribuer à organiser, il est évident que ces questions supposent un certain geste de courage. Rares sont aujourd'hui, ça a été rappelé, les établissements universitaires, comme les académies, à l'échelle scolaire, à cette saisie de la question. Néanmoins, et le colloque nous permettra de voir cela, notamment les conférences et tables rondes du samedi matin, malgré tout, ce défi progresse un peu. Mais il progresse tout en demeurant très laborieux, tout en demeurant difficile face à un nombre de résistances très importantes et avec des engagements politiques sur ces questions qui demeurent souvent largement précaires ou qui restent générales. On a rappelé sur l'incertitude qu'il y a sur le rôle des référents racisme et qui pose effectivement la question, c'est-à-dire que l'on attendrait que le problème se manifeste. Or, le problème a peu de chances de se manifester, on le verra dans le colloque, compte tenu de l'impossibilité ou de la difficulté à prendre la parole sur cette question. Il y a des raisons de penser que le contexte global actuel n'aide pas beaucoup à ouvrir ces questions. Pourtant, il n'y a jamais de moment favorable pour le faire, et en tout cas, il n'y a rien qui puisse justifier d'attendre pour que la violence du racisme et des discriminations cesse. À ce propos, je voudrais dire un mot de la tentative d'intimidation qui a visé cette manifestation. Cette tentative a été initiée, comme vous le savez sans doute, par un article injurieux et calomnieux publié dans le Figaro, sous le titre « Comment le racialisme indigéniste gangrène l'université ?» Comme à chaque fois, parce que cette stratégie d'intimidation se répète depuis plusieurs années, et que diverses rencontres scientifiques et des collègues qui les ont organisées sont présents, je le sais, diverses manifestations scientifiques en ont fait les frais en France. Comme à chaque fois, l'article initiateur et les commentaires qui l'entourent visent en premier lieu des personnes racisées, dans le jargon de la sociologie, racisées veut dire que les personnes subissent et sont assignées par le racisme à quelque chose comme une race ou une position raciale. D'accord ? Comme à chaque fois, ce sont ces personnes racisées qui en font particulièrement les frais. Il est en fait ni plus ni moins reproché à ces personnes de se battre avec leurs moyens propres pour faire entendre le tort qui est collectivement subi par celles et ceux qui sont la cible du racisme et des discriminations et qui luttent pour faire changer cet ordre des choses. La sociologie qui travaille sur ces questions n'est pas pour autant épargnée, même si moi, comme membre personnellement, comme membre du groupe majoritaire, j'ai le privilège d'être relativement protégé de cette violence. En cette époque et sur cette question, la sociologie peut difficilement être un calme examen des faits de société, c'était la formule de Louis Guéré. Qu'on le veuille ou non, elle est prise dans un combat pour que les principes universaux affichés par notre société, l'égalité, la fraternité, la liberté, soient des normes effectives qui régissent réellement et au quotidien le fonctionnement de nos institutions, le fonctionnement des divers univers sociaux. La sociologie a de fait été une compagne de route critique, souvent, des mouvements antiracistes. Je pense par exemple aux fondatrices, aux fondateurs de l'URMIS, qui étaient très engagés sur ces questions et auprès de collectifs, et a pour objectif, en général, de contribuer à faire voir, entendre, reconnaître ces réalités sociales d'une rare violence. De faire reconnaître aussi, ou de permettre que soient entendues des voix qui habituellement sont réprimées. De faire en sorte que des expériences quotidiennes de mépris et d'humiliation puissent être enfin posées, combattues et qu'elles cessent. Toute chose que notre société, la société française particulièrement, mais cela méritera d'y discuter, nous avons des collègues qui viennent d'autres pays, d'autres continents,
toutes choses que nos sociétés, ces réalités, ont du mal souvent à affronter, à poser, et en particulier leurs institutions éducatives. Aussi, je voulais remercier tout particulièrement l'Université Paris Diderot, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Défenseur des droits de leur soutien pour cette manifestation et pour qu'elle puisse avoir lieu. Il est important que nos institutions publiques tiennent leur rôle, et notamment face à ces tentatives d'intimidation. Il est important que ce débat puisse avoir lieu autour des travaux, des expériences et des initiatives. L'enjeu de ce colloque est de questionner, vous l'avez compris, simultanément les deux phases du problème, c'est-à-dire d'une part les processus de racisme et de discrimination, d'autre part l'action publique et ses difficultés. Malgré la densité du programme de ces journées, vous l'avez vu, notre travail va être lourd, intense, dense, on peut dire que la cartographie, et je pense que le programme en témoigne, la cartographie que nous aurions, que nous souhaitons pouvoir dresser un petit peu à l'issue de ce travail-là, la cartographie du phénomène montre d'emblée des trous ou des territoires méconnus. Le domaine de l'enseignement supérieur est le parent pauvre de ces études, très clairement. Hormis, on le verra dans la table ronde sur les enquêtes, notamment quelques travaux qui mesurent le sentiment ou l'expérience des discriminations raciales et du racisme à l'université. Ça me fait néanmoins tout drôle, moi qui travaille sur les questions scolaires depuis une vingtaine d'années, ça me fait pas drôle de parler de parents pauvres pour l'université, parce qu'on ne peut pas dire que la recherche sur l'école soit particulièrement riche non plus. Tout ensemble, le champ éducatif demeure en partie un continent à explorer sous cet angle des questions de racisme et de discrimination. De ce point de vue, faut bien constater à l'aune de notre programme de travail qu'il y a à ce jour des questions qui demeurent largement à ouvrir, et notamment peu de travaux sur les discriminations et les racisations vécues par les personnels des institutions éducatives. À part quelques travaux pionniers, je pense au DEA de Samuel Bérard sur l'expérience de ce qu'il appelait les hussards noirs de la République, l'enquête d'Abdelali Hadjat et de Zachary Zoubir qu'on verra dans la table ronde sur l'enquête, celle de Pierre-Olivier Weiss qu'on verra aussi aujourd'hui, ou encore un travail dont on n'aura pas l'occasion d'entendre qui est autour du mémoire de master que vient de soutenir Anaïs Housseini sur l'expérience du racisme et les processus de racisation des assistants d'éducation dans les établissements scolaires. Donc il y a quelques travaux qui commencent à défricher un petit peu sur ces questions-là, mais cela reste, j'ai envie de dire, très largement en deçà d'une connaissance nécessaire. Avant de m'arrêter et de céder la parole à la cinquantaine d'intervenants qui vont se succéder sur ces deux jours et demi, deux mots sur les choix et les contraintes d'organisation. Vous avez remarqué combien notre agenda est chargé pour ces deux jours et demi, combien vont être denses les travaux. Alors, nos excuses pour vous faire subir peut-être cela, un moment qui va être effectivement très intense et qui va nous demander beaucoup d'énergie, qui sera rythmé néanmoins par des temps de respiration, de pause, etc. Voilà, mais il va falloir qu'on supporte malgré tout ces conditions de travail qui sont un petit peu difficiles. Deuxième élément que je voulais pointer, c'est que le colloque a répondu manifestement à une appétence énorme, vu les inscriptions. Nous étions pleins en termes d'inscription fin août, avant même que les gens soient rentrés. Nous avons bloqué les inscriptions très tôt. Donc nous avons beaucoup de gens qui sont très frustrés de ne pas pouvoir venir. Malgré cela, nous risquons d'être très très largement en saturation. Et du coup, je vais vous demander, ça va être une règle qu'il va falloir qu'on tienne dans tout le colloque, d'occuper systématiquement toutes les places, voilà, de faciliter la circulation pour ça. Mais notre équipe d'organisation va nous aider à gérer collectivement cet espace. Je voudrais pour finir, du coup, remercier et féliciter toute l'équipe qui travaille sur l'organisation de ce colloque, certaines et certains depuis maintenant 10 mois. Ça représente une quarantaine de personnes qui sont mobilisées pour que nous puissions travailler dans les meilleures conditions possibles. Merci et bravo à chacune et à chacun. Je nous souhaite de fructueux travaux.